الكريم رب زدنا علما يا كريم رب شح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني قهو قولي ومشيخة on avait commencé à expliquer la dernière fois le sens de la deuxième partie du shahada أن محمد رسول الله lorsque Jibril عليه السلام a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم les questions à propos de la foi parmi les réponses que le prophète عليه الصلاة والسلام a donné c'est première chose, c'est que le musulman, c'est celui qui atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu par Allah et que Muhammad est le prophète d'Allah. Et on avait expliqué la dernière fois quelques bases, quelques notions de base que le musulman doit avoir dans sa croyance, dans son acceptation que le prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est l'élu d'Allah et le prophète d'Allah. Il dit que le musulman, il va attester que le prophète Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, le meilleur des prophètes et d'une manière générale la meilleure des créatures qu'Allah Azza wa Jal a envoyées sur terre. Et nous savons tous que si une personne ose prétendre, ose dire qu'il y a un autre prophète après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais même si cette personne, en apparence, elle fait toutes ses salats, elle jeûne les lundis, les jeudis, cette personne fait le qiyam al-layl, cette personne fait preuve d'une piété qui dépasse notre compréhension, qui dépasse tout le monde, mais à partir du moment où dans sa foi, il y a un manquement, il ne témoigne, il n'atteste pas que Muhammad est le dernier des prophètes, alors cette personne est kafir. Il n'y a pas à chercher des fatwas ou il n'y a pas à chercher des raisons pour protéger la personne. Lorsqu'il y a un manquement, lorsqu'il y a un défaut dans la base du aqidah, de la foi du musulman, alors cette personne est kafir. Maintenant qu'une personne accomplisse des péchés, on n'est pas en droit de dire que la personne est kafir. Une personne accomplit des péchés, c'est entre elle et Allah. Peut-être qu'Allah il peut pardonner, peut-être qu'Allah ne pardonne pas. Mais quand il y a un manquement dans la croyance, alors ça c'est extrêmement grave. Parce que les manquements dans la croyance ne peuvent pas être comblés par l'apport excessif dans les actions. Si moi je ne reconnais pas le Mohammed comme le dernier des prophètes, même si je suis le plus grand adorateur, je fais plus de sejda que tout le monde sur cette terre, je suis le plus grand sahajid, jamais ces sejda ou ces dhikrullah, ces millions d'euros que je peux donner dans le chemin d'Allah, ne pourront combler un manquement qu'il y a dans l'attestation de foi dans les croyants. C'est pour ça, mes chers frères, qu'il faut consolider notre croyance. Alors, personne de cette assemblée n'ose imaginer ou prétendre qu'il y a un prophète après le prophète, alayhi salatu wassalam, mais il faut savoir que depuis l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, avec Moussa et al-Kadhab et d'autres imposteurs, et jusqu'à la fin des temps, il y aura des personnes, et il y a eu le fitna des Qadiani, etc. Et malheureusement, de nos jours, il y a certains musulmans dans certains pays qui continuent à croire que cette personne est le successeur du prophète alayhi salatu wassalam. Mais ça ne nous concerne pas directement. Où est-ce que ça nous concerne? C'est quand j'atteste que le Muhammad alayhi salatu wassalam est le dernier des prophètes, je dois également attester, je dois comprendre par cela que c'est la dernière personne qui a reçu la révélation de la part d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire après le décès du prophète alayhi salatu wassalam, on pourrait dire la porte qu'il y avait entre le ciel et la terre où le wahi arrivait, cette porte, elle est fermée définitivement jusqu'à la fin des temps. Inqita'ul wahi. C'est pour ça que certaines femmes, après le décès du prophète, des sahaba, elles pleuraient. On demandait et on disait à ces personnes que le prophète est dans un endroit où il souhaitait lui-même aller. Il est retourné auprès d'Allah, il ne faut pas être aussi triste. Et cette femme a répondu, je ne pleure pas pour le départ du prophète, mais je pleure parce qu'il n'y a plus de wahi, il n'y aura plus de révélation entre Allah et nous. Donc on comprend bien que le décès du prophète alayhi salatu wassalam, c'est la fin du wahi. Ce qui veut dire que personne ne peut prétendre de nos jours recevoir une science de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut dire qu'Allah a inspiré mon cœur, qu'Allah ta'ala a mis une telle science dans mon cœur et que j'ai une connaissance que le prophète n'a pas donnée. Personne ne peut affirmer, personne ne peut prétendre avoir une connaissance, ne serait-ce aussi minime soit-elle, sur la religion bien sûr, que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas enseigné. Parce que le muallim, celui qui détenait la science par excellence, c'était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, une personne n'est pas en droit de rajouter quelque chose à la religion, ni d'en enlever sous prétexte qu'elle croit ou qu'elle comprend que des choses que le prophète n'aurait pas enseignées aux sahabes. Alors, on avait dit qu'il y a à peu près 9 conditions pour que notre attestation de foi sur le prophète soit complète. D'accord? La première de ces attestations de foi, là on va brasser assez rapidement, c'est al-mahabba, l'amour pour le prophète. Un musulman, avant tout, aime son prophète, alayhi salatu wassalam, plus que n'importe qui. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wasallam avait enseigné comment est-ce que le musulman doit aimer le prophète. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa waladihi wa walidihi wa an-nas ajma'in. Personne n'atteindra le véritable degré de foi, de iman, tant qu'il ne m'aimera pas plus que ses parents, que ses enfants, que ses biens et que sa propre personne. C'est-à-dire l'amour qu'un musulman doit avoir pour le prophète alayhi salatu wasallam doit dépasser n'importe quel attachement qu'on peut avoir pour une personne vivante ou pour un bien matériel ou pour notre propre personne. Ça, c'est le degré d'amour que le musulman doit avoir dans son cœur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela nous emmène vers la deuxième des conditions pour que l'attestation de foi soit complète. C'est maintenant qu'on sait qu'on aime le prophète plus que tout le monde, plus que n'importe qui plutôt. La deuxième condition, c'est al-tasdiq, c'est de croire à tout ce que le prophète alayhi salatu wasalam nous a enseigné. Si je suis persuadé que c'est la meilleure des créatures, c'est le meilleur des hommes qu'Allah a envoyé sur cette terre, maintenant je dois être encore plus persuadé que tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Et tout ce que le prophète alayhi salatu wasalam m'a enseigné ou nous a montré par le biais de ses actions ou par le biais de ses discours, alors nous devons y croire à 100%. Que je comprenne ou que je ne comprenne pas. Il y a des fois où la logique humaine permet de comprendre la sagesse qu'il y a dans une sunna, mais il y a des fois où la logique humaine ne peut pas cerner la profondeur du message qui a été passé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais même si je ne comprends pas en réalité qu'est-ce que le prophète a voulu dire ou quelle était la sagesse dans tel enseignement prophétique, je me dois d'accepter à 100% ce que le prophète alayhi salatu wa sallam m'a enseigné et nous a informé. La troisième condition, maintenant que j'aime le prophète, la deuxième condition, maintenant que je crois à tout ce qu'il nous a enseigné, la troisième condition, c'est al-ittiba. Maintenant, je vais suivre, maintenant que je crois ce qu'il nous a enseigné, je vais mettre en pratique al-amal, al-ittiba, je vais mettre en pratique tout ce que mon prophète m'a enseigné. Wa ma kana al-mu'minin wa la mu'mina idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous fait comprendre que le musulman, d'une manière générale, doit accepter toutes les décisions qu'Allah et son prophète ont prises. C'est-à-dire, lorsque notre prophète nous enseigne, nous explique que telle chose est bonne pour moi, je me dois de le mettre en pratique. Et dans l'autre sens, lorsque notre prophète nous explique que telle chose est mauvaise et haram, ou même que la chose est makrouh, la chose est déconseillée pour un musulman, nous devons nous en éloigner immédiatement. Ça, c'est la plus grande preuve qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on l'avait expliqué la dernière fois, lorsqu'on entend que telle action existe dans la religion, on ne doit pas essayer de comprendre d'abord est-ce que c'est obligatoire, c'est sunnah, c'est mustahab pour mettre en pratique. Si notre prophète nous l'a enseigné, nous devons de le mettre en pratique. Maintenant, en fonction du degré d'obligation, nous serons différemment récompensés. Mais un musulman qui aime son prophète, c'est quelqu'un qui met en pratique tout ce que le prophète l'a enseigné, même si c'est quelque chose qui est sunnah. Et un musulman qui aime son prophète, et là, nous passons à la troisième condition, c'est s'éloigner, s'abstenir de ce que le prophète sallam a décrété haram ou même déconseillé. C'est-à-dire, je contrôle mon nafs, j'ai envie de faire telle chose, j'ai envie de manger telle chose, j'ai envie de vivre de telle manière, mais si mon prophète m'a enseigné qu'il est mieux de faire telle ou telle chose, je me dois de faire passer l'ordre du prophète avant ce que moi j'ai envie de faire. Et ça, c'est la plus grande preuve de muhabba. Il est trop facile de dire que moi j'aime mon prophète. Maintenant, si je l'aime vraiment, cela se concrétisera dans ma pratique. Quand j'ai envie de faire quelque chose qui est haram et le prophète m'a enseigné que c'est interdit, mon nafs, mon instinct, mes pulsions me disent d'y aller, mais le prophète dans son enseignement nous a fait comprendre que telle chose est interdite. Je prends l'exemple de la musique. C'est interdit dans le Coran, mais également par les textes prophétiques. Si une personne a l'habitude d'écouter et une personne finit par apprendre que la musique est haram, la personne ne savait pas, son cœur, l'incite à écouter cette chose. Ça lui procure un certain plaisir. Mais maintenant, ce musulman fera passer l'ordre d'Allah et l'ordre du prophète avant ses pulsions, avant son instinct, avant ses désirs. Et c'est là la concrétisation, la plus grande preuve que vraiment dans mon cœur, j'aime le prophète avant moi-même. C'est ce qui veut dire, ce qui est un peu complexe, c'est aimer le prophète plus que ses biens, ses parents, ses enfants. Ça, on a compris. Maintenant, aimer le prophète plus que soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire passer l'ordre du prophète avant ce que moi j'ai envie de faire. Ça, c'est la plus grande preuve de muhabbat qu'on peut avoir pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quatrième condition, ça c'était là, la quatrième condition. Sachant que chaque chose que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il prononce une parole, jamais le prophète ne se trompe. Et jamais le prophète n'invente des choses. Car Allah dit le Coran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُحَى. Jamais notre prophète ne parle de sa propre personne. Lorsqu'il nous dit quelque chose, c'est toujours par révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un verset, Allah Azza wa dit, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Lorsque le prophète vous ordonne de faire quelque chose, faites-le. Et lorsqu'il vous l'interdit, alors abstenez-vous-en. Hein? Ça, c'est la traduction approximative. Pour qu'on comprenne que même si, par exemple, dans le Coran, nous ne voyons pas un ordre où il n'y a pas une interdiction, mais nous le retrouvons dans les hadiths, nous devons mettre en pratique. Et ça, c'est un point essentiel. Ça a l'air très banal comme discours. Mais beaucoup de fitnas de nos jours tournent autour de ces points-là. De nos jours, sur beaucoup de principes de la religion, beaucoup de principes de la religion sont remis en cause. Sont remises en cause, surtout par ce qu'on appelle les islamologues, des gens qui étudient l'islam sans y adhérer, ou alors des médias qui disent que dans le Coran, il n'y a pas l'ordre, il n'y a pas telle chose, il n'y a pas telle chose. Comme je l'ai expliqué dernièrement, il y a une dame qui, j'étais ici même, Allahu A'lam, qui envoie un mail, dit que voilà, quelqu'un l'a mise en doute, elle dit que dans le Coran, il n'y a pas l'ordre de se couvrir les cheveux pour une femme. On ne parle pas du parda, là, ça c'est un autre niveau, ça. Il dit qu'il n'y a aucun verset qui prouve qu'une femme doit se couvrir les cheveux. Donc la personne me dit que quel intérêt de se couvrir les cheveux, la seule chose qu'il faut c'est de ne pas avoir la poitrine dehors ou autre chose, une tenue décente, mais les cheveux ne font pas partie du satar, du aura de la femme. Alors on essaie d'expliquer à la personne les versets du Coran et comment les islamologues, ils ont une approche très très éloignée du Coran, ils lisent le Coran comme ils font des commentaires de poésie ou autre chose. Et j'ai posé cette question à cette personne, quand vous faites 4 faraz isha, qui vous a dit qu'il y a 4 farad dans Salat al-Isha? De le Coran, il n'a jamais été précisé le nombre de rakat par salat. De le Coran, il n'a jamais été précisé que le wukuf de Arafat, c'est depuis le zawal jusqu'à le coucher du soleil. De le Coran, il n'a jamais été précisé telle règle si une personne a mangé ou a bu pendant qu'il était en état de jeûne, par oubli, sans faire exprès. Le Coran ne précise pas tout. C'est-à-dire que le Coran a été révélé et le Coran est expliqué. Le tafsir du Coran, c'est les hadiths, c'est les hadiths prophétiques. Les hadiths complètent et expliquent les termes du Coran. C'est-à-dire que le musulman, il suit les ordres d'Allah et il suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette manière de voir les choses, qu'on ne suit que ce qui est le Coran et les hadiths prophétiques, ça on ne va pas y toucher. Ça, c'est une fitna, c'est une source de perdition qui a été annoncé il y a 1500 années par le prophète alayhi salatu wassalam. À une époque où jamais un sahaba pouvait imaginer qu'un jour, une personne oserait dire que je suis que ce qu'il y a de le Coran, mais les textes prophétiques ne m'apportent rien. Les sahaba ne pouvaient même pas imaginer qu'un jour quelqu'un dirait ça. Et le prophète a dit que viendra une époque où des gens diront, le hadith dit, « Ya'tihi l'amru min indi, fayakulu ma adri, ma kana fi kitabillahi taba'nahu rawha Budaoud. » Le prophète nous a expliqué qu'un jour viendra une époque où lorsqu'on expliquera aux gens que le prophète a dit telle ou telle chose, cette personne dira que je ne sais pas, ce qu'il y a dans le livre d'Allah, je suis. Et ce que le prophète a dit, ça, je ne mets pas en pratique. Et le prophète m'a mis en garde contre ces personnes-là. Et de nos jours, ce mouvement existe depuis à peu près un siècle ou deux. On appelle ça les Qur'aniyoun. Les gens qui suivent que le Coran, on retrouve dans certains pays, mais c'est encore minoritaire. Mais malheureusement, nous retrouvons cette attitude avec certains islamologues qui mettent de côté tout ce qu'il y a comme enseignement prophétique pour se concentrer uniquement sur le Coran. Et ce n'est pas dans un but noble, bien sûr. Ce n'est pas dans un but constructif. C'est uniquement pour que les musulmans perdent de leur religion. Sachant qu'il y a énormément de choses que notre prophète nous a enseignées et que cela n'a pas été révélé dans le Coran. La sunna, la hadith complète les versets du Coran. Nous en sommes à 4 conditions. La 5e condition, et ça c'est extrêmement important, c'est maintenant que j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que n'importe qui, plus que tout. Je crois tout ce qu'il a enseigné. Je mets en pratique tout ce qu'il m'a dit et je m'éloigne de tout ce qu'il a décrété haram ou même illicite. Maintenant, je dois être persuadé qu'aucun être humain, aucun homme ne peut avoir une intelligence supérieure au prophète alayhi salatu wassalam, ni aucun homme ne peut avoir une opinion qui dépassera celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, on reste dans le domaine de la religion. Hein. Tant dans les enseignements religieux, il y avait cette parole d'Abu Hanifa rahimahullah, lorsqu'il donnait des décrets sur les maslahs, il disait que si un jour il s'avère que vous trouvez un hadith qui va à l'encontre de mon opinion, alors vous devez obligatoirement délaisser mon opinion pour aller vers le hadith. Et ça, les quatre aïmas étaient unanimes dessus. Lorsqu'il y a un hadith qui va à l'encontre de l'opinion d'un savant, nous devons mettre en pratique le hadith. Ça, c'est quelque chose d'assez technique. Maintenant où ça nous sommes un peu plus concernés, c'est lorsqu'il y a une opposition apparente entre un ordre du prophète et une découverte scientifique. Comme on l'avait expliqué la dernière fois, si, hein, une personne nous avait dit pas, si un scientifique dit que boire de l'eau en position debout est meilleur pour la santé, et que nous savons que l'enseignement prophétique était que le musulman, il s'assoit pour boire de l'eau, même si ce médecin, ce chercheur, quel que soit son degré d'étude, il nous amène mille et une preuves, des radios, des scanners, des IRM, des analyses, je ne sais quoi, pour nous montrer que boire debout, c'est mieux pour la prostate, pour l'estomac, ou je ne sais quoi. Mais si je suis conscient que mon prophète m'a enseigné qu'il est sunna de boire en position assise, je me dois de mettre cela en pratique et d'accepter, d'avoir la conviction que ce que le prophète m'a enseigné, c'est la vérité. Parce que le prophète, ce qu'il dit, ça vient de la part d'Allah. Et qui connaît mieux l'être humain qu'Allah Azza wa Jalla? Celui qui l'a créé, qui connaît son fonctionnement tant sur le plan physique que son fonctionnement sur le plan psychologique. Évidemment, on lisait dans un magazine, hein, est-ce qu'une amitié entre un homme et une femme sur le plan professionnel peut durer? Alors dans les magazines, il y a des sondages, hein, ils disent que d'une manière générale, un homme et une femme qui se retrouvent tous les jours dans un bureau en intimité, hein, où il n'y aura personne d'autre, d'une manière ou une autre, cette relation finira par se dégrader et dépassera le cadre de l'amitié. Et sur le plan psychologique, le prophète nous avait enseigné que lorsqu'un homme se trouve avec une femme en intimité, alors qu'il n'y a personne d'autre, la troisième personne, c'est Shaytan. Même si la femme en face n'est pas jolie, on va dire même s'il ressemble à un ton ou il ne ressemble pas, c'est pas Miss Monde, mais Shaytan fera en sorte que nous allons percevoir le péché comme quelque chose d'exceptionnel. Shaytan a le don d'embellir les péchés et de faire pencher notre cœur vers le péché. C'était un petit exemple. Et pour concrétiser ça encore, on regarde une émission scientifique, soi-disant hier, qui parlait d'un sujet tellement banal sur l'hygiène. Excusez-moi, ce n'est pas l'endroit pour en parler, mais l'hygiène aux toilettes. J'ai vu une émission comme ça, une fois de temps, on a l'occasion de regarder, expliquer comment il est important d'utiliser des produits, etc., etc., par rapport aux germes, par rapport aux maladies. Et où ça fait-il? C'est à la fin de l'émission, il disait que malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, l'enseignement qu'il y a en Europe, en Amérique, les plus intelligents, ce sont les Japonais, qui ont, écoutez bien, qui ont inventé des toilettes munies de douchettes. Et là, il montre la maquette, personne ne s'assoit, c'est des dessins, et au niveau de la lunette, hein, il y a comme un petit tuyau, avec de l'eau bien sûr, qui va nettoyer les parties intimes après que la personne ait été aux toilettes. Ce que nous appelons depuis 1500 années, al-istinja, tout simplement. Parce que là, il dit que les chercheurs japonais ont prouvé, c'est-à-dire ils prouvent là maintenant, en 2010, que se nettoyer, se purifier avec du papier hygiénique, n'est pas suffisant. Donc, la purification totale ne peut avoir lieu que par l'eau. Et donc, ils ont inventé un système, après que la personne ait fait ses besoins, il y a un bouton, il y a un programme, je ne sais pas quoi, qui va laver la personne, et à partir de ça, il n'y aura plus le moindre germe qui va persister. Moi, je regarde ça, je dis, subhanallah, l'enseignement prophétique date de 1500 années, où notre prophète nous a enseigné que le istinja se fait en priorité avec de l'eau. Le musulman doit comprendre que l'enseignement prophétique dépasse ce que les scientifiques ont pu prouver et dépasse ce que les scientifiques vont trouver jusqu'à la fin des temps. J'avais un exemple, un musulman d'origine pakistanaise qui était à l'université en Californie ou à Philadelphie, je ne sais plus quel endroit, hein, il était en cours de biologie à l'université, et là le professeur expliquait l'embryon, la naissance, comment l'embryon se forme dans le ventre de la maman. Et là, il voit que cet étudiant, qui est donc de confession musulmane, c'est comme si il allait être désintéressé. Il a posé une question à cette personne, que c'est son attitude désintéressée dans le cours. Et là, il dit que ce que vous êtes en train d'expliquer, on le savait depuis 1500 années. Le professeur à l'université dit, mais comment ça? Il a montré un exemple du Coran, une traduction en anglais. Et là, le professeur a vu les versets du Coran où Allah Azza wa Jal explique toutes les phases de l'embryon, depuis que c'est une goutte de sperme, jusqu'au caillot de sang, jusqu'au morceau al-alaqa, jusqu'au morceau de chair, jusqu'à ce que l'âme vienne de le corps, il devienne un être vivant, etc., etc. Et ce professeur était étonné comment il y a 1500 années dans un désert où il n'y avait pas un microscope, il n'y avait même pas une paire de lunettes, il n'y avait pas possibilité d'opérer quelqu'un, ni d'ouvrir le ventre, il n'y avait pas de césarien, d'ouvrir le ventre d'une femme pour voir qu'est-ce qui se passe dedans lorsqu'elle est enceinte, bien sûr. Comment un homme dans le désert a pu comprendre tout cela? Et ça, c'est le wahi min Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, bon, il reste encore quelques conditions, ça on va laisser pour la prochaine fois, mais c'est très bref, ça c'est rapide, on avait déjà expliqué avant. Hein. Maintenant qu'on a compris qu'on doit sacraliser tout ce que le prophète nous a enseigné, ben, dans ce cas, le musulman ne peut rajouter quelque chose sur la religion par rapport à ce que le prophète alayhi salatu wasalam nous a enseigné. Quand le prophète a dit, « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun », celui qui ose rajouter quelque chose à cette religion à propos de laquelle je n'ai pas donné d'enseignement, cette action sera immédiatement repoussée, sera refoulée, ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la septième condition, parce qu'il y en a neuf, la septième, c'est on ne doit pas exagérer. Dans toute chose, il y a la modération. On ne doit pas exagérer sur la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous l'aimons comme les sahaba l'ont aimé. Et pour célébrer cette mahabba, la meilleure des solutions, c'est de mettre sa sunnat en pratique. Inutile de faire des grands rassemblements, on va faire des louanges du prophète, on va, etc., etc., à partir du moment où les sahaba ne l'ont pas fait. Les sahaba étaient ceux qui aimaient le plus le prophète. Les plus grandes preuves d'amour pour le prophète, c'était les preuves d'amour que les sahaba avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, après 1500 années ou 1600 années, nous ne sommes pas en droit de dire que pour vraiment manifester notre attachement pour le prophète alayhi salatu wa sallam, nous allons faire telle festivité. Dans ce cas, nous sommes en train de sortir de la sunna, de la sunna prophétique que notre prophète nous a laissée. Et avant dernier point, on ne doit pas innover non plus concernant la personne du prophète, l'intégrité du prophète alayhi salatu wa sallam. Ça c'est un peu plus complexe, comme par exemple les Nasara ils l'ont fait, en disant que Jésus a une partie de divinité en lui jusqu'à ce qu'ils disent que Jésus est fils de Dieu. Donc le prophète nous a enseigné, « Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma sha Allah ». Le prophète ne peut apporter ni du bien, ni causer du tort à personne, ni même à lui-même. C'est-à-dire le prophète était avant tout un être humain. Il était là pour enseigner ce qu'Allah lui a demandé d'enseigner, et le prophète n'avait pas de pouvoir au-delà d'un homme mis à part lorsqu'Allah Ta'ala lui donnait la possibilité de faire des mu'jizas, des miracles. Et là également, c'est une petite parenthèse, beaucoup de gens lorsqu'ils vont pour le Hajj ou Umrah, ils vont à Madina Munawwara, ils disent que voilà, ils ont entendu que lorsqu'on se présente devant le prophète alayhi salatu wassalam, il faut demander au prophète d'intercéder pour nous le jour de Qiyam. Ça c'est quelque chose de complètement erroné. Parce que le Coran, Allah Ta'ala dit, « Man dhallazi yashfa'u indahu illa bi'idhni ». Le shafa'a, l'intercession, le joie de la résurrection, se fera par ordre d'Allah, en demandant l'autorisation à Allah Azza wa Jal. Jamais un sahaba n'a demandé de tels propos au prophète, alayhi salatu wassalam, après son décès, bien sûr. C'est-à-dire que notre prophète répondra au salam du musulman qui le rend visite dans la masjid Nabawi, bien sûr, uniquement au salam. Lorsqu'on dira « Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah », en aucune façon, les hadiths ne disent que le prophète entend les conversations ou autre chose. Il y a même des gens qui écrivent des lettres au prophète. Ça, il y a des gens qui ont expliqué. Ils écrivent des lettres, ils passent et ils coulent dans les petits grillages. C'est-à-dire le degré d'ignorance des gens. Mais même une personne qui va dire au prophète d'Allah, intercède pour moi le jour de Qiyamah, ça, on n'a même pas le droit de le dire. Parce que les sahaba ne l'ont pas fait. Et ça, on doit bien comprendre. La sunna, c'est pas ce que je crois comprendre qui est mieux. Non, ce que le prophète m'a dit de faire, ce que le prophète m'a montré par ses actions, c'est ça que je mets en pratique. Je ne vais pas essayer de comprendre qu'est-ce qui serait mieux pour moi pour me rapprocher du prophète. Autrement, c'est comme si que je remets en cause la sunna. C'est-à-dire que le prophète ne nous a pas enseigné tout ce qu'il faut pour nous rapprocher de lui. J'ai besoin d'une petite touche personnelle ou de telle chose qui me permettra de me rapprocher de lui. Et enfin, neuvième et dernier point, le musulman se doit de respecter les livres où il y a les hadiths, les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, tout comme nous respectons le Coran. Et lorsqu'on parle de respect, même pour le Coran, il y a deux catégories de respect. Il y a le respect apparent. Par exemple, ça c'est un Coran, je ne vais pas le mettre par terre. Ça c'est un Coran, je ne vais pas le porter comme ça. Comme beaucoup de gens ils font, ça c'est pas bien ça. Ça c'est un manque de respect. Hein? Bon, ça c'est le respect apparent, ça, alhamdoulilah, nous l'avons tous intégré. Mais il ne faut pas se limiter au respect apparent. Il faut le respect ma'nawiyan, le respect de ce qu'il y a dans le Coran. Quel intérêt de prendre le Coran, de mettre ça sur son cœur, sur sa tête, et si quand Allah Ta'ala dit ne faites pas le zina, ben on le fait. Lorsqu'Allah Ta'ala dit ne dites pas ouf à nos parents, on dit ouf à nos parents. Lorsqu'Allah Ta'ala nous dit qu'on ne doit pas consommer de l'argent illicite, on consomme. Et on a respecté la couverture, on a respecté les pages, on a respecté l'encre de l'imprimerie, mais on n'a pas respecté le message qui a été véhiculé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes chers frères, c'était là un bref rappel. Le musulman se doit de comprendre que plus on va mettre ces choses-là, les 9 points pratiques, plus notre iman sur le prophète alayhi salatu wassalam sera complète. Ça c'est la base de la foi du musulman sur le prophète. Maintenant, il y a le qadr wajib et le qadr mustahab. Ce qui est surérogatoire, ce qui est souhaitable dans l'attestation que Mohammed est le prophète d'Allah, maintenant, cela dépendra de chaque musulman, c'est d'apprendre la sira, de connaître la vie du prophète, de connaître les étapes de la révélation, de connaître le nom de ses époux, de ses enfants, c'est-à-dire connaître la sira, plus nous allons connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons nous informer sur sa vie, plus nous aurons de l'amour pour lui. Qu'Allah nous accepte et qu'Allah Ta'ala nous permette d'avoir un iman solide, des bases solides, pour pouvoir développer des actions qui seront également solides et acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.